Tu es agité et occupé. Il est bon de faire une pause et de contempler le ciel bleu. Ferme les yeux, inspire profondément. Avec ces simples gestes, tu seras sauvé et le monde renaîtra. Mon travail dans le monde insensible du quotidien consiste à célébrer des événements stimulants. Je voudrais qu'ils deviennent un espace qui évoque une étincelle poétique. En tout cas, le moindre de mes signes, contrairement à la parole, voudrait être ce quelque chose qui mène le spectateur à entendre le silence et qui ouvre ses yeux à l'espace de la résonance. L'artiste Li Houfan est ce soir notre invité à l'occasion de son exposition au Centre Pompidou Metz. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Yun Sun Na.
Pour
Pouvez-vous nous décrire, Liufan, le paysage du village de montagne où vous êtes né, au sud de la Corée?
Là où je suis né, c'est vraiment un fin fond dans les montagnes. Il y a une vallée et un petit village. Il n'y avait que 7-8 maisons seulement. Et j'ai grandi là-bas. Et il y a une rivière. Et juste à côté des montagnes. C'était dans un endroit vraiment calme, tranquille.
Quel type d'éducation avez-vous reçu et quels étaient les principes de cette éducation confucéenne?
Ce n'est pas encore depuis 100 ans, c'est-à-dire que c'était vraiment fin fond de la société, ce qui fait qu'il n'y avait même pas d'électricité. Et à l'époque, j'ai été éduqué sous l'éducation traditionnelle coréenne, même pour les garçons, nous gardions les cheveux longs et le tableau et la calligraphie et sinon les poésies. Ça, depuis l'âge de 4-5 ans, nous avons appris tout ça.
Vous aimiez beaucoup les pierres. Vous les aimez encore en tant qu'artiste puisqu'elles sont exposées dans les musées du monde entier. Vous en faites des assemblages, vous en faites des matières et des manières de penser, mais les pierres, dès votre enfance, étaient très importantes dans ce village de montagne. Pourquoi? Il y en avait beaucoup, Liufan?
Alors,
mon patelin, les montagnes et la rivière, mais là, surtout la rivière, c'était rocheux. Et dans les montagnes, c'était rocheux.
Les pierres, pour moi, depuis mon enfance, c'était vraiment quelque chose que je côtoyais toujours. Et c'est juste à côté de moi. Mais les pierres ont également les liens avec l'univers, avec l'espace. Même une petite pierre, il y a une relation un peu d'éternité avec la vaste univers. C'est ce que je ressentais depuis mon enfance.
Regardez-vous le ciel souvent? Enfant, vous le regardiez beaucoup. Aujourd'hui, vous continuez à le contempler?
J'ai l'impression que vous me regardiez depuis longtemps. Effectivement, dans mon patelin, ce que j'adorais, chaque fois que je vais quelque part, dans des montagnes ou sinon dans le pré, j'adorais lever mes yeux vers le ciel. Et encore maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose, avec la joie, avec la tristesse, je regarde toujours le ciel.
Êtes-vous un homme joyeux?
Je
suis optimiste.
Quelle définition donneriez-vous de l'infini, Liufan? Car voir votre œuvre, c'est se poser des questions sur l'infini.
Alors,
il y a l'éternité, il y a l'infini. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est l'infini. Déjà, ce n'est pas le concept de l'infini qui m'intéresse. Vous touchez une pierre, ou sinon vous mettez votre main dans l'eau qui coule dans une rivière, mais vous ressentez quelque chose de différent chaque fois. C'est ça l'infini. Je pense que c'est la notion très importante.
L'infini, c'est l'élémentaire de la sensation, alors, pour vous.
Et justement, c'est mon point de départ. C'est par la sensation que j'entre, je pénètre dedans. On ne sait pas où je vais, mais on entre dans un endroit.
Vous ne savez jamais, quand vous commencez un travail, où vous allez aller. C'est l'abandon de vous-même qui vous mènera quelque part. C'est votre méthode, Liufan.
Ce n'est pas un abandon. Mais
tout simplement, je fais mon concept à moi. Donc c'est le début. Mais il y a toujours un dépassement et il y a toujours un imprévu. Avec les autrui, j'ai des rapports et cela me procure des rencontres. Donc cela me mène jusqu'à l'infini.
Alors je vais vous citer Liu Fan, parce que non seulement vous êtes artiste, mais vous êtes aussi poète. Et vous avez écrit un livre magnifique qui s'intitule « L'art de la résonance ». D'ailleurs, vous êtes un artiste de la résonance entre les matières, l'espace, la mise en relation d'objets qui apparemment n'ont rien à voir entre eux et que vous allez créer grâce à votre créativité. Voici ce que vous écriviez en 2008. « Avant de commencer mon travail, faisant quelques mouvements de gymnastique, je pratique de profonds exercices de respiration pendant une vingtaine de minutes. Par beau temps, je regarde aussi le ciel. Je familiarise mon corps avec l'espace qui est autour de moi, car je m'évertue à parvenir à éclaircir ma conscience en communiant avec un lieu lointain. » Faire de l'art, c'est un acte de méditation pour vous.
Cela
peut être une méditation, mais parfois ce n'est pas le cas non plus. Dans un premier temps, je respire, j'ordonne ma respiration. C'est justement essayer d'avoir une communion avec mon environnement et ensuite je vais penser à autre chose. C'est surtout penser à des rencontres des autres. Dans un premier temps, c'est un temps tranquille. Dans ce cas, c'est une méditation. Mais parfois, il peut y avoir des moments beaucoup plus dynamiques parce que c'est une rencontre avec des autres.
Oui, mais vous aimez beaucoup la solitude.
Oh, je l'adore. Je l'adore.
Cela étant dit,
la solitude, ce n'est pas uniquement être seul. Même dans une foule, même en faisant des conversations, je me ressens solitaire. Parfois.
Vous avez évoqué tout à l'heure, Liu Fan, cette enfance dans ce village de montagne en Corée. Et puis ensuite, ce que les personnes ignorent, c'est que vous avez failli être philosophe et que vous avez suivi de longues études à l'université de philosophie et de littérature. Pourquoi n'avez-vous pas persévéré dans cette voie? Même si vous êtes maintenant un artiste philosophe ou un philosophe artiste.
Alors, dans mon patelin, j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire que ce n'était pas que des relations avec les hommes. C'est plutôt le contact avec la nature qui était primordial pour moi. Courir dans les montagnes, contempler le ciel. Il y a vraiment toutes sortes de relations. Et j'ai même pensé jusqu'à l'univers, toutes sortes de formes de communication. Et je voulais m'étendre justement au-delà de là, à aller très très loin jusqu'à la communication lointaine. Ça ne change pas depuis mon enfance. Or, dans la modernité, le centre de ce monde, ce sont des hommes. C'est la société, c'est la civilisation. Bon, bien entendu, c'est un élément important. Mais si ce n'est que ça, c'est un peu ennuyeux, parce que les hommes ont vécu déjà un temps vraiment lointain, et surtout les relations avec un monde beaucoup plus grand. Là, on ne devrait pas oublier. C'est ça, mon insistance.
Et donc, la philosophie, c'était une nourriture indispensable pour pouvoir accomplir votre propre personnalité. Liu Fan.
Alors, pour moi, la philosophie n'était pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas trop conceptuel, mais tout simplement, c'est un échange avec l'homme. Et c'est pour aller beaucoup plus profondément dans des choses. C'est ça, pour moi, la philosophie.
Nous allons écouter la voix de Michel Foucault. Il va parler des lieux d'utopie comme le jardin ou encore le théâtre, c'est une archivina du 7 décembre 1966.
En général, l'hétérotopie a pour règle de juxtaposer en un lieu réel plusieurs espaces qui, normalement, seraient, devraient être incompatibles. Le théâtre, qui est une hétérotopie, fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux étrangers. Le cinéma, eh bien, c'est une grande salle rectangulaire au fond de laquelle il y a sur un écran qui est un espace à deux dimensions, un espace projeté qui est un espace à nouveau à trois dimensions. Vous voyez l'enchevêtrement des espaces qui se fait et qui se noue dans quelque chose comme une salle de cinéma. Mais peut-être le plus ancien exemple d'hétérotopie serait le jardin. Le jardin, création millénaire, qui avait certainement en Orient une signification magique. Le traditionnel jardin persan est un rectangle qui est divisé en quatre parties. Ces quatre parties représentent les quatre parties du monde, les quatre éléments dont le monde est composé. Et au milieu, au point de jonction de ces quatre rectangles, il y avait un espace sacré, une fontaine, un temple. Et autour de ce centre, toute la végétation du monde, toute la végétation exemplaire et parfaite du monde devait se trouver réunie. Or, si on songe que les tapis orientaux étaient à l'origine des reproductions de jardins, au sens strict du terme, des jardins d'hiver. On comprend la valeur légendaire des tapis volants, des tapis qui parcouraient le monde. Le jardin, c'est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c'est un jardin mobile à travers l'espace. Était-il d'ailleurs parc ou tapis, ce jardin que décrit le conteur des mille et une nuits ? On voit que toutes les beautés du monde viennent se recueillir en ce miroir. Le jardin, depuis le fond de l'Antiquité, est un lieu d'utopie. On a peut-être l'impression que les romans se situent facilement dans des jardins. C'est qu'en fait, les romans sont sans doute nés de l'institution même des jardins. L'activité romanesque est une activité jardinière.
Qu'est-ce qu'un jardin pour vous, Liufan ? Dans votre tradition, qu'est-ce qu'un jardin ? Car toute votre œuvre est destinée à être placée dans la nature, dans le paysage de la nature. D'ailleurs, vous avez été un des artistes invités il y a quelques années pour exposer à Versailles et vous aviez fait de ce jardin royal une véritable architecture symbolique et une invitation au voyage de tous les sens. Mais même en dehors de cette prestigieuse invitation à Versailles, toute votre œuvre est faite pour être à l'extérieur, dans le jardin. Qu'est-ce qu'un jardin ?
Michel Foucault,
ce qui a été dit par Michel Foucault, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est le plus important, c'est le terme jardin, le concept jardin. C'est un média. À partir de là, il parle des hommes, il parle de l'univers. Et le jardin a un sens un peu différencié entre le monde occidental et l'Asie. En Asie, le jardin, c'est une sorte de monde concentré, un peu miniaturisé, concentré. Donc sans arrêt, le monde, l'univers, est considéré à travers un média. Ce n'est pas l'ensemble, ce n'est pas le tout, mais à partir de là, on ressent l'univers, on ressent le monde, quelque chose de limité, mais on fait sentir quelque chose. Ça peut être l'utopie, ça peut être l'art, mais ce n'est pas le tout, c'est en montrant juste un partie du tout, ça nous donne beaucoup d'inspiration vers le tout. Vous voyez, déjà, le jardin à la japonaise, c'est typique. C'est un peu l'utopie, mais là aussi, c'est un parti de tout. C'est un parti de l'utopie. À partir de là, on peut apercevoir vraiment une utopie beaucoup plus vaste.
Dans ce jardin de Versailles, dans ce parc de Versailles où vous aviez magistralement installé vos créations, Liu Fan, il y avait dans un bosquet quelque chose que vous aviez intitulé « Relatum, l'ombre des étoiles ». Et c'était au milieu de la nature de ce parc de Versailles, une grande étendue blanche, encerclée par des grands panneaux en acier marron. Et au centre de ce cercle, il y avait des pierres que vous aviez installées. Et effectivement, on se disait, quel dommage que le jardin de Versailles ferme la nuit, parce qu'on se disait, est-ce que les étoiles vont aller se refléter dans ces pierres blanches que vous aviez situées dans cette installation? Les étoiles ont une ombre, Liu Fan?
André Lenôtre était un génie. Il a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment le summum de la sagesse humaine.
Or,
il y a quand même la marge de la nature qui reste malgré tout. Alors, dans le temps, il y avait des bâtiments. Mais il n'y en a plus. Mais là, justement, je voulais rappeler le temps qui coule toujours depuis des nuits des temps. Maintenant, il n'y a plus rien, mais il y avait quelque chose d'autre. Là, des hommes vraiment formidables étaient là. Justement, à travers les constellations des étoiles, je voulais vraiment rappeler le souvenir ou l'histoire des hommes. Ce n'est pas créer un autre jardin, mais à l'heure actuelle, le jardin de Versailles est fermé. Mais je voulais vraiment faire ouvrir ce jardin-là à travers des pierres, à travers des aciers. Vous voyez, ce n'est pas créer une nouveauté, mais lui donner un déclencheur pour faire renaître des choses.
Alors, on sait que André Lenôtre avait créé des sculptures artificielles dans le jardin de Versailles. Et vous, Liu Fan, quand vous êtes emparé de cette commande à Versailles, vous avez creusé une tombe. Une tombe qui était en hommage à André Lenôtre. Et votre travail s'inscrit toujours entre l'infini du passé et l'intensité du futur. Et le flux du temps, vous essayez de l'emprisonner à l'intérieur de créations artistiques qui n'ont l'air de rien, rien.
Vous avez tout à fait raison. Parce qu'il y a dans le temps le passé. Mais je voulais utiliser, je voulais faire venir le passé pour nous faire allusion de l'avenir. C'est justement ça que je voudrais réaliser.
Philosophe, artiste, poète, toutes ces casquettes vous les possédez, Liu Fan, mais vous êtes aussi un intellectuel engagé. Vous avez une histoire personnelle et géographique tout à fait étonnante. Vous avez évoqué votre enfance dans ce village traditionnel en montagne dans la Corée du Sud. Là, vous êtes en train de parler depuis le début de cette émission en japonais, car vous vivez au Japon depuis extrêmement longtemps. Pourquoi avez-vous décidé de partir pour le Japon? Je crois qu'au départ, c'était une affaire familiale, mais vous avez surtout décidé de ne plus jamais repartir en Corée. Est-ce que vous vous ressentez à l'intérieur de vous-même plus coréen ou entièrement japonais aujourd'hui, en 2019?
C'est une question difficile à répondre. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui bougent tout le temps dans le monde. Et il y a également des réfugiés. Et moi, tout au début, à l'âge de 19 ans. Alors, je voulais juste rendre visite à un oncle malade, mais lui, il ne m'a pas laissé partir. Et au fur et à mesure, finalement, je me suis complètement installée au Japon. Et dans un premier temps, et justement, je voulais faire la littérature. Jamais là. Mais comme je ne parlais pas le japonais au début, finalement, c'est là qui m'a parlé plus. Donc, on ne sait jamais le destin de son propre personnalité. Vous me demandez si je me sens japonais ou coréen. Effectivement, je suis né en Corée, mais depuis 60 ans, je vis au Japon. Et depuis 40 ans, je bouge un peu partout dans le monde. Donc 40 ans, je suis nomade. Et je ne sais plus qui je suis. Et le monde actuel, ça doit être beaucoup plus fluctuant. Finalement, l'identité, dans le sens passé du terme, c'est difficile à cerner, de plus en plus difficile. Ce qui m'importe, c'est le mouvement. Et il y a les transports, il y a les informations qui se développent. C'est un élément qui sont primordiaux dans la société. Donc c'est cette idée, être beaucoup plus tolérant vis-à-vis de son identité.
Vous avez été précipité, Li Houfan, vers l'âge de 20 ans dans une autre civilisation que la vôtre. À l'époque, le Japon était occupé par les Américains, la situation politique était très difficile. Ensuite, l'essor du capitalisme a essayé de mettre en pièces cette civilisation japonaise. Et vous avez été le fer de lance d'un mouvement artistique, mais aussi politique et intellectuel, qui s'est élevé contre le consumérisme. Or, aujourd'hui, en 2019, vous êtes un artiste conceptuel, abstrait, mais pas vraiment, hyper contemporain, et je crois que vous êtes encore un des tenants hyper engagé contre la société de consommation.
Bonne question, effectivement.
Alors,
dans un premier temps, j'ai déménagé de la Corée, plutôt pauvre à l'époque, vers le Japon assez riche. Or, la société a changé parce qu'il y a eu toutes sortes de sociétés de consommation, donc la civilisation japonaise a été transformée. Or, ce que j'ai ressenti dans mon expérience, dans mes ressentis de longue date, les hommes devraient penser pas uniquement les choses positives, mais les choses négatives, c'est-à-dire que produire, c'est un élément positif. Mais il faut produire moins et il faut faire autre chose. Être modeste, beaucoup plus modeste, être plus à modération, même l'expression c'est la même chose. Être proactive, dynamique et de lutter vraiment en confrontation avec la société de consommation, ce n'est pas ça. Plutôt rester soi-même et rester vraiment modeste, mais pour être beaucoup plus honnête vis-à-vis de soi-même. Et quelles seront les expressions que nous devrions montrer? C'est plutôt par ce mode de critique qu'on peut apporter beaucoup plus de choses dans la société actuelle.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Li Houfan, Jean-Sébastien Bach, concerto en fa mineur numéro 5, interprété par Glenn Gould.
Thank you.
se passe-t-il à l'intérieur de vous quand vous écoutez ce morceau, Liufan ?
C'est surtout parce que c'est Glenn Gould qui a joué ce morceau. C'est quelque chose de poétique. Mais
on entend quelque chose de métallique
et mécanique. C'est l'apport de Glenn Gould. Il y a une certaine distance de la musique que Glenn Gould a pu réaliser. C'est ça ce qui est vraiment sublime.
Comment travaillez-vous ? On a dit tout à l'heure que vous vous mettiez en condition physique. On a expliqué que ce n'était pas l'abandon, mais que c'était une tension et une attention. Et en même temps, vous avez quand même une culture qui fait que vous êtes complètement imprégné de culture bouddhiste et que l'œuvre d'art est une production qui est inventée certes par vous, mais qui vient aussi de cette culture bouddhiste. Quelle est la part d'involontaire dans votre élan artistique, Liufan ? Est-ce que vous êtes auteur de toutes vos œuvres ?
Et justement, je ne suis pas vraiment auteur de toutes mes œuvres. Cela étant dit, quelqu'un d'autre m'a dit « Oh, ce n'est pas votre », ça me fâchera.
Mais
ce n'est pas uniquement moi, mon ego, mon expression, ce n'est pas du tout ça. À partir du concept, moi, je dépasse ce concept-là. Il y a encore d'autres choses de l'extérieur qui me permet de créer autre chose. Parce que finalement, c'est une rencontre avec le monde extérieur que je crée des choses. Il faut d'abord m'ordonner. Il faut être vraiment m'entraîner. À partir de là, c'est toujours avec des rapports avec l'extérieur qu'on essaye de se tirer l'essence du monde extérieur. L'essence, ce n'est pas que moi. C'est moi plus beaucoup d'autres choses. Je crée quelque chose. C'est ça ce que je souhaite réaliser. Par exemple, je peins avec un grand canvas ces derniers temps, juste une touchée, deux touchées, point final. Alors, parfois, il y a critique. Ah, il n'y a qu'une touchée, deux touchées. Mais à partir de rien, à partir d'un vide, dès que je mets une touchée, finalement, il y a résonance entre la partie peinte et la partie non peinte. C'est une résonance. C'est ça, là. Ce n'est pas mon image à moi. C'est plutôt entre l'espace et mon concept qui se confronte. Et c'est ça qui crée quelque chose de nouveau. Moi, ce que je fais, c'est vraiment quelque chose de minime. Juste un petit concept de rien du tout. Mais ce qui est né à partir de là, c'est quelque chose d'énorme.
Le registre de vos matériaux, Liufan, est impressionnant. Vous utilisez la pierre, le gravier, le fer, le métal, mais aussi de plus en plus, et c'est ce qu'on peut découvrir à l'intérieur de votre nouvelle exposition au Centre Pompidou-Metz, le sable. Vous portez de plus en plus d'attention au sol. Et en ce qui concerne vos peintures, vous avez développé un art pour nous spectateurs de regarder autrement la peinture. On a l'habitude de regarder les peintures au mur et d'avoir notre corps vertical quand on regarde un tableau. Mais vous, vous nous obligez à incliner la tête car vos peintures sont maintenant mises sur le sol. Et effectivement, ça, le corps est différent, mais l'attitude et la compréhension et la sensation sont elles aussi différentes. Je voudrais vous faire écouter la voix d'un peintre français que vous connaissez, qui s'appelle Pierre Soulages et qui va nous expliquer ce qui le pousse à peindre. C'est une archive INA du 9 février 1951. C'était au micro de Georges Charbonnier. C'était il y a longtemps, mais Pierre Soulages a bientôt 100 ans. Il en a 99 aujourd'hui et continue à peindre dans son atelier. Écoutez-le.
Ce n'est pas un choc, une émotion produite par un personnage ou un objet qui me décide à peindre. C'est une impulsion, un désir qui ne trouve pas sa source, du moins à ma connaissance, dans un objet. Pour nous, il ne s'agit pas de se pénétrer du modèle et de le rendre, que ce modèle soit réel, présent devant les yeux du peintre, ou imaginaire, comme c'est le cas pour beaucoup de peintures surréalistes. Pensez par exemple, ce titre me paraît très significatif, aux toiles intitulées « Photographies de rêve peintes à la main ». Pour ma part, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler un modèle intérieur, qu'il s'agirait de retrouver, de recopier sur la toile. Lorsque je commence une toile, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais cela n'exclut pas qu'elle soit précédée d'une envie, d'un désir.
Quelle est cette impulsion, ce désir dont vous venez de parler, qui en quelque sorte vous met en route ?
C'est exactement de cela qu'il s'agit. C'est une mise en route. Cette impulsion, ce désir, c'est plus exactement une envie de forme, un besoin de certaines formes plutôt que d'autres, mais ce n'est que peinte, que jetée sur la toile ou sur le papier, que telle tache colorée, telle ligne verticale par exemple, me renseigne sur cette envie. Je n'apprends vraiment ce que je cherche qu'en peignant.
Alors, on sait que Pierre Soulages ne peint plus que dans cette... Vous applaudissez, oui, parce que je crois que vous aimez beaucoup l'œuvre de Pierre Soulages. Et on sait que depuis longtemps, vous l'adorez. On sait que depuis longtemps, Pierre Soulages travaille le noir, même s'il dit que dans le noir, il y a une infinité de couleurs. Et vous, Liufane, on peut s'en apercevoir dans l'exposition au Centre Pompidou-Metz. Vous avez autrefois, mais c'était il y a longtemps, utilisé beaucoup de tableaux colorés, très colorés, un peu comme les peintres américains de la période des années 60. Puis petit à petit, vous êtes acheminé vers une peinture extrêmement minimaliste, faite à partir de points, de taches presque, et presque imperceptible. Est-ce que vous approuvez la méthode de Soulages ? Est-ce que cette mise en situation de votre propre corps par rapport à la peinture se doit d'être le plus économe possible, le moins visible possible aussi.
Et ce qui a été dit par Soulages, je suis entièrement d'accord avec lui, même à 100%. C'est-à-dire que ce n'est pas peindre quelque chose, c'est le fait de peindre qui est le point de départ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un canevas, juste une touchée, deux touchées, c'est le point de départ de mon acte. Cela étant dit, il y a quand même une différence entre Soulages et moi. C'est comme Gerhard Richter. Ils ont essayé toutes sortes d'essais de la peinture, de la possibilité de la peinture. Mais il y a une chose qu'ils n'ont jamais fait. C'est remplir le tableau. Beaucoup de choses qui sont mises dedans. Ça, ils ont déjà fait, mais ils n'ont fait, et ils n'ont pas fait plutôt, un contact avec l'acte de non-peint. Moi, il y a la partie peinte, mais il y a la partie également non-peinte. C'est le rapport entre les deux. C'est ça, finalement. C'est vraiment le contact avec ça, même avec très peu de toucher, on peut réaliser des tableaux. Justement, je m'entraîne physiquement et c'est à partir de mon corps très puissant, je peux créer des vibrations et là justement cela crée ce contact entre la partie peinte et la partie non peinte.
Je pense avec ma tête, dites-vous, Liu Fan, je peins avec ma main, je marche avec mes pieds, en quête d'un quelque chose. Comment définiriez-vous ce quelque chose ?
Peut-être,
c'est difficile à dire, en tout cas de manière très nette. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à décrire. Quelque chose de non fixe, quelque chose qui se vibre, mais ce n'est pas par les paroles que je n'arrive à décrire. Autrement dit, l'expression, parfois on peut partir d'une parole, mais ce n'est pas la parole en tant que telle qui crée une expression.
Voudriez-vous que votre œuvre ne soit pas visible en tant qu'œuvre artistique ? Je m'explique. Il y a eu, il y a quelques années, sur les berges de la Seine, une œuvre de vous qui était une pierre avec une sorte de bâton en fer. On n'était pas obligé de la voir quand on marchait. Mais si on la voyait, on s'arrêtait devant et on se disait « Mais qui a fait ça ?» D'ailleurs, il était quasiment impossible de savoir que c'était vous, l'auteur. Ça aurait pu être peut-être un enfant, ça aurait pu être une personne âgée, ou ça aurait pu être un passant, ou des amoureux. Et cette œuvre était bouleversante. Et là, je me demande si finalement c'est pas pour vous, ça, la réussite d'être un artiste, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui laisse une trace comme ça, mais qui pourrait être visible pour certains, invisible pour d'autres.
Mais peu importe, faire connaître mon nom ou pas. Justement, il y a curiosité, ah tiens, il y a quelque chose. Ça fait venir les gens, et les gens tournent autour. Et là, ça peut être un déclic, ça peut être un déclencheur. C'est l'air qui existe avec cette œuvre qui fait sentir quelque chose. Ça fait imaginer, ça fait créer des sensations. Ce n'est pas un seul parole, ce n'est pas un seul mot. Bon, bien entendu, la parole, le langage est important, mais ce n'est pas un seul mot que je peux décrire ce genre de choses-là.
Votre exposition au Centre Pompidou se clôt, Liu Fan, par un espace extrêmement intime qui s'intitule la Meditation Room. C'est en papier de riz, c'est un endroit minimaliste, évidemment pour inviter à se reprendre soi-même, à ne plus entendre aucun bruit, à partir hors du temps. Y parvenez-vous ? À quitter notre temps, notre chaos du quotidien ? Et va-t-on y arriver en nous enfermant dans votre chambre de méditation, Liu Fan ?
Alors,
sortir de soi-même, oublier soi-même, cela peut être juste un chimère. Cela étant dit, dans ce genre de pièces, de meditation room, il peut y avoir toutes sortes d'imaginations, toutes sortes d'idées subalternes qui semblent très peu importantes. Ce qui fait que on respire autrement, on ressent autrement. C'est ça ce qui est primordial. Est-ce qu'on peut vraiment effacer complètement soi-même ? Ce n'est pas ça. Mais justement, c'est une pièce qui pourrait donner ce déclic qui me donne envie de faire cette meditation room.
Alors, on ne va pas se quitter, Liu Fan, sans évoquer votre nouveau projet qui nous honore beaucoup, nous, Français, vous qui avez une œuvre présentée de manière internationale dans tous les grands musées d'art contemporain. Vous avez choisi la France pour installer votre fondation dans un ancien hôtel particulier de la ville d'Arles. Pourquoi ?
これはいろいろな事情もありますけども、
plusieurs raisons。
アルルは、
mais、
僕は70年代半ばに初めて行ったんですけども、
je suis venu pour la première fois、à peu près au milieu des années 70. C'est une ville ancienne. Et il y a un corisée, n'est-ce pas, romaine.
その街を歩くとその路地は小さな細い路地ですし、そうすると細い路地だとか、
その路地を見ると
非常に古い時間がそこに
行き着いている。finalement、c'est le temps ancien qui reste encore vivant dans la ville。
あの生活日常生活もあるんですけども。
Il y a la vie quotidienne, contemporaine qui existe. Mais finalement, les deux choses différentes respirent en même temps dans une seule ville.
Et
Heidegger a dit, c'est un philosophe. Finalement, les hommes essayent de faire un édifice. Or, la nature fait
そういう両面性が見えるところ
があるんです。Une table rase. Finalement, il y a toujours ces deux aspects. Et justement, dans la ville d'Arles, ces deux aspects existent en même temps. Là, j'aimerais bien vivre dans cette ville d'Arles. Je voudrais faire quelque chose avec ces deux temps différents de ma fondation à Arles.
Ben merci infiniment, Liu Fan. Merci pour cette très belle exposition que vous avez le temps d'aller voir puisqu'elle va durer au Centre Pompidou-Metz jusqu'au 19 août prochain. Et merci d'avoir accepté d'être venu à notre invitation. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongé dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugles et sourds et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet où depuis des siècles il pendait, puis s'en était. Puis s'en était allée. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème pour nous sauver, sans un poème pour nous sauver. Thank you. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer par chez toi et sur ton bureau. J'ai vu les ratures au stylo, quelques mots qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains, ils ont pris le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher.
Et c'est avec Dominique A, la poésie que nous aimons tant, que nous allons nous quitter ce soir, non sans rappeler que l'exposition de Li Houfan s'intitule « Habiter le temps », qu'on peut la voir au Centre Pompidou Metz jusqu'au 30 septembre. Merci à Jean-Baptiste Audibert, à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert, et à Lilian Alhomme qui a réalisé cette émission.